on n'est pas en vacances, on va quand même faire un petit voyage ensemble. C'est un voyage donc, que je vous propose, pas vers un nouveau pays, mais peut-être vers un nouveau monde, ou en tout cas une nouvelle économie qui sera au service de ce nouveau monde. L'objectif étant effectivement de reparler et de repositionner ces concepts qu'on manipule beaucoup, qui nous sont envoyés souvent à la figure d'ailleurs à travers les médias aussi. Et finalement, quand on parle d'économie, de quoi on parle? On a parfois l'impression, et je vais faire un petit clin d'œil, hein, qu'on finit par se demander qui est au service de qui. Est-ce que c'est l'économie qui est au service des humains, ou est-ce que c'est les humains qui sont au service de l'économie? Et parfois, à voir la manière dont se passent les choses, on peut se poser légitimement la question de savoir effectivement dans quel sens ça se passe vraiment. Sachant que dans quel sens on voudrait que ça se passe, là je laisse effectivement à votre libre arbitre d'apporter la réponse qui vous convient à cette question. Le sous-titre, c'est de la quête de maîtrise à une nouvelle alliance. Et ça, j'y reviendrai. Alors, il y a beaucoup de sous-entendus, mais que je vais expliciter, assez philosophiques finalement, dans le sens où, alors, dans notre pays, l'éthique de la nature, l'éthique du vivant sont des choses qui sont relativement récentes, qu'on s'est relativement peu appropriées. Alors que quand on regarde en fait dans d'autres pays, en d'autres endroits du monde, ce sont des choses qui ont plus d'un siècle de cheminement déjà. Quand on pense qu'Aldo Léopold, par exemple, l'Almanach d'un comté des sables, c'était publié en 1840 aux États-Unis, ça n'a été traduit en français qu'en 2007. Donc vous voyez qu'on a mis un petit peu de temps quand même à s'approprier ces concepts-là. Et c'est effectivement ce qui porte cette perma-économie, c'est d'avoir un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport au vivant, un nouveau rapport, pour le dire autrement, entre vivant humain et vivant non-humain. Parce que voilà, j'aimerais à expliquer, et en fait mon parcours personnel est presque un résumé de tout ça, c'est que finalement, si on veut changer nous-mêmes, on doit changer notre manière de nous percevoir les uns les autres, mais on doit aussi changer notre manière de nous percevoir par rapport au reste du monde vivant. Moi, de formation, je suis biologiste, je suis naturaliste amateur, je suis militant de la protection de la nature et de l'environnement depuis très longtemps. Et puis, je suis aussi économiste, j'ai aussi fait des études en commerce et en management. J'ai aussi créé, géré, dirigé des entreprises. Mais pendant très longtemps, pendant presque 20 ans, hein, 18 ans, ça a été des choses qui étaient parallèles. C'est-à-dire que j'avais une vie de la semaine et une vie le week-end. Militant le week-end, le soir, aux heures bénévoles, et puis entrepreneur ou dirigeant d'entreprise la semaine. Et comme si on ne pouvait pas être les deux en même temps. Et donc ma conviction, c'est qu'à un moment donné, il fallait réunir cette double personnalité, finalement, arrêter d'être schizophrène. Et ce que je veux vous proposer là, c'est une manière de raisonner pour qu'ensemble, nos sociétés arrêtent d'être schizophrènes aussi, retrouvent une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus libérée à la nature, qu'on arrête ce rêve de domestiquer, de maîtriser, de canaliser la nature, pour retrouver un modèle de vie harmonieux, et un modèle de développement harmonieux avec la nature. Donc il y a tout ça dans la perma-économie, il y a beaucoup d'autres choses aussi, évidemment. Alors quelques mots rapidement avant, pour vous dire un petit peu qui, alors quand je dis qui nous sommes, l'Institut Inspire, hein, que j'ai créé donc il y a 9 ans maintenant, qui est aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif, qui avait été créée sous forme associative en fait il y a 9 ans. L'objectif, c'était vraiment de faire émerger justement des pistes de solutions pour une réconciliation des thématiques économie et écologie, ou plus largement d'économie et de biodiversité. En fait, quand on regarde un tout petit peu dans ces années 2007, 2008, 2009, c'était au moment du Grenelle de l'environnement, c'était au moment où les gens apprenaient à se parler. Et quand je dis apprenaient à se parler, c'est qu'il fallait d'abord élaborer un langage commun. C'est-à-dire que même quand on rencontrait des gens qui étaient empreints de la meilleure volonté du monde dans le monde de l'entreprise, des grandes entreprises, je vous parle, pour qu'ils arrivent à comprendre ce dont on leur parle quand on parle d'écologie, quand on parle de biologie, c'était déjà pas évident. Et même nous, pour qu'on arrive à comprendre leur langage, c'était pas évident. Je vous l'ai dit, de par ma double formation, mon double parcours, j'étais quelque part un interprète. Et donc j'ai fait ce travail avec l'Institut Inspire d'interprétariat, de traduction quelque part, de tisser des passerelles entre ces mondes-là, et de faire en sorte qu'on puisse arriver à parler ensemble. Et donc finalement on a été une sorte de think tank pendant quelques années, et j'ai répété que c'était pas l'économie de la biodiversité qu'il fallait faire, il fallait pas mettre la biodiversité dans l'économie, c'était l'économie qu'il fallait remettre dans la biodiversité, c'est-à-dire qu'il fallait rendre compatibles nos modes de création de richesses avec la dynamique, avec les flux, avec la capacité d'évolution de la biosphère. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez fondamental qu'il fallait faire rentrer dans les esprits. Et puis, au bout de quelques années, on s'est dit, bon, on a fait un travail de think tank, on a produit des idées, maintenant il faut qu'on produise des choses concrètes. Et donc, on s'est transformé en société coopérative d'intérêt collectif. En gros, c'est une entreprise à but non lucratif. C'est une entreprise démocratique, dans le sens où c'est pas l'actionnaire qui a le capital, qui a le pouvoir. Chaque personne, quel que soit le nombre d'actions qu'elle va posséder, aura le même nombre de voix à l'Assemblée Générale. Et c'est une entreprise qui ne distribue pas de dividendes. C'est une entreprise qui ne capitalise pas, puisqu'on réinvestit effectivement les éventuels bénéfices quand on arrive à en faire, dans le développement, dans la recherche, dans le fait de soutenir effectivement des activités, et on soutient d'ailleurs des activités de recherche. Alors, les thèmes sur lesquels on travaille, ça a été formalisé il y a quelques années, ça déjà il y a 8 ans, et c'était avant qu'on parle de permaéconomie, mais vous allez voir qu'on va retrouver tous ces thèmes-là dans la permaéconomie. Le premier, par exemple, je pourrais commencer par n'importe lequel d'entre eux, mais c'est déjà cette idée de sortir du pétrole. Alors on a l'impression qu'on a du mal à sortir du pétrole, c'est un peu dur, on est englué là-dedans. On a des gros coups de retour en arrière, des coups de balancier, par exemple, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Mais pourtant, le mouvement est quand même lancé. Et non seulement le mouvement est lancé, mais il est irréversible pour deux raisons. D'abord, il faut le faire, ce mouvement de sortir du pétrole, quand on a encore du pétrole. Les hommes, les Cro-Magnons sont pas sortis de l'âge du silex, de l'âge de pierre parce qu'il n'y a plus de silex, mais sont sortis de l'âge de pierre parce qu'ils sont allés vers autre chose. Et on sortira du pétrole parce qu'on voudra aller vers autre chose. Mais ce mouvement, il est d'ores et déjà irréversible. C'est malgré l'élection de Trump, ce qu'il faut rappeler, ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'économie qui repose sur les énergies renouvelables aux États-Unis emploie plus de personnes que le pétrole, le charbon, le gaz et le nucléaire réunis. Donc ça veut dire que la transition énergétique, même au pays qui a élu Donald Trump, elle est déjà irréversible, elle est déjà largement enclenchée. Et en fait, ce mouvement, il est encore très discret, il est peu médiatisé, mais j'ai la conviction qu'il est réellement irréversible. L'autre aspect, c'est, et là c'est un peu le naturaliste, mais vous le savez, vous faites aussi avec Averne des sorties nature, quand on regarde comment fonctionne un écosystème, quand on se promène en forêt, ben, on voit qu'un écosystème ne produit aucun déchet. Et finalement, notre économie, elle devrait faire pareil. Je vois pas pourquoi notre économie produit du déchet. Et d'ailleurs, elle produit du déchet matériel, des choses qu'on va incinérer, enfouir, etc. Mais elle produit aussi du déchet immatériel, de l'exclusion, par exemple, du mal-être, de la perte de sens. C'est aussi du déchet, c'est du déchet immatériel. Et donc, il faut vraiment sortir de cette économie du déchet pour aller vers l'économie qui crée réellement et pleinement de la valeur. L'autre aspect important, et c'est un clin d'œil évidemment très appuyé au biomimétisme, c'est d'innover en s'inspirant de la nature. Et vous verrez que la permaéconomie, c'est vraiment une économie qui s'inspire de la nature, qui s'appuie sur la nature, mais qui va plus loin, qui propose une nouvelle alliance avec la nature. Et on est, à l'Institut Inspire, très fortement ancré dans le biomimétisme. Et alors je le rappelle, je pense que Daniel, il y a 5 ans, avait largement insisté sur ce point-là, le biomimétisme, c'est pas s'inspirer de ce qu'on va trouver dans la nature pour faire des choses technologiques extrêmement performantes, etc. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait s'inspirer du biomimétisme de la nature pour faire des avions de chasse, pour faire des sous-marins furtifs, pour faire des drones de combat. C'est évidemment pas la vision du biomimétisme qu'on défend. Par contre, ce qu'on défend très fortement, c'est que la nature, ou la vie si vous préférez, elle a 3,8 milliards d'années d'ancienneté sur Terre. En 3,8 milliards d'années, ce sont des milliards de générations d'êtres vivants qui se sont succédés. Ce sont des diversités biologiques, de métabolisme, d'interactions au sein des écosystèmes, de processus évolutifs quasiment infinis qui ont pu se produire. Et on peut considérer aujourd'hui que toute espèce qui vit, ou même toute espèce qui a vécu dans le passé, est finalement une innovation du vivant qui a trouvé sa place, qui a réussi, qui a répondu à un certain nombre de problèmes et qui a finalement élaboré un certain nombre de stratégies. Et la grande leçon du vivant, c'est que ça fait quand même des milliards d'années que ça dure, tout ça. Des milliards d'années que ça dure dans un système qui est un système fermé, dans un système dans lequel on ne peut pas produire de déchets, dans un système où la seule source d'énergie est celle qui vient du soleil. Et finalement, c'est un défi qu'on a l'air de trouver extrêmement difficile aujourd'hui, alors que des organismes vivants comme des moules, comme des champignons, comme des algues ou comme des fourmis ont trouvé la solution depuis des centaines de millions d'années, voire depuis des milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'intelligence, on peut oser le parallèle, en tout cas par essai, erreur, la nature a trouvé des recettes, la nature a trouvé des principes qui font que ça marche, et il faudrait qu'on s'en inspire pour que notre économie fonctionne de manière aussi durable aujourd'hui. L'autre aspect important, c'est, alors c'est lié aux déchets aussi, vous avez tous entendu parler de l'inverse en fait de ça, hein, qui est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est un peu ce modèle économique où en gros, les fabricants d'objets conçoivent ces objets de manière à ce qu'ils soient soit cassés, soit difficiles à maintenir parce qu'on ne va pas trouver les pièces détachées, soit tout simplement démodés parce qu'on va lancer une nouvelle génération d'appareils quelques années après. Pensez à l'iPhone par exemple. Et les gens qui ont mon âge ont connu dans le salon de la maison un téléphone qui était relié avec un fil torsadé au mur, avec un combiné qui était relié avec un fil torsadé au téléphone, et on a eu le même pendant 25, 30 ans peut-être, il n'a pas changé de look du tout pendant toute cette période-là. Depuis que l'iPhone a été lancé il y a 10 ans, il y a déjà eu combien 7 générations d'iPhone. Vous voyez qu'il y a une sorte d'accélération, parce que ben forcément il faut vendre toujours plus d'appareils, et donc il faut faire en sorte que ces appareils soient démodés. Et en plus, de toute façon, même si vous avez voulu garder votre ancien iPhone, ben les logiciels ne marchent plus, les batteries vous ne les trouvez plus, vous ne trouvez plus les pièces détachées, etc. Donc ça, c'est l'obsolescence programmée. Et notre principe, notre propos, c'est de dire, en fait, c'est pas les objets qui créent de la valeur dans l'économie, c'est l'usage qu'on fait des objets. C'est pas les téléphones, c'est les communications. C'est pas les téléphones, c'est les applications et les services qu'ils peuvent nous vendre. C'est pas les voitures, c'est la mobilité. C'est pas des machines qu'on va trouver dans les usines, c'est éventuellement des pièces qu'elles vont pouvoir fabriquer ou des services qu'elles vont pouvoir rendre. Et donc en fait, cette économie de la fonctionnalité, hein, c'est un peu un grand mot, c'est dire finalement c'est une véritable économie de la performance, parce que ce qui va compter, c'est la performance d'usage qu'on va être capable de livrer à un client, et non pas les objets qu'on va lui vendre à marche forcée, éventuellement même contre son gré. Et enfin, dernier point, qui me paraît aussi essentiel, et c'est un des piliers, c'est un peu ça qui nous a amené à cette réflexion sur la perma-économie. Alors c'est cette notion de réinvestissement dans le capital naturel. Alors tout de suite, je vais éclaircir des choses, parce que ça peut paraître choquant quand on parle de capital naturel. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de capital naturel? Ben, ça veut dire une chose, c'est que quand vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, vous avez en gros un capital financier que vous ont apporté vos actionnaires, ou que votre banquier vous a avancé. Donc il faut rémunérer ce capital, il faut réinvestir dedans, donc il faut faire en sorte que cet argent dégage une certaine rentabilité. Et puis vous avez une partie de cet argent que vous avez investi dans des machines, dans des moyens de production, dans des ordinateurs, dans des immeubles éventuellement. Ben, tout ça, ça s'abîme. Donc il faut les maintenir. Donc il faut les maintenir en bon état, les entretenir, les renouveler quand il y a besoin. Et d'ailleurs, en comptabilité, on a un principe qui s'appelle l'amortissement, qui fait que dans vos comptes, ça doit peser, ça c'est usure des appareils, cette maintenance des appareils, et si vous n'amortissez pas, c'est même considéré comme une faute de gestion, c'est parfaitement illégal, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez trompé tout le monde sur la valeur que vous avez créée. On parle aussi de plus en plus de capital immatériel dans les entreprises, voire de capital humain, déjà là c'est assez choquant aussi comme expression. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait une entreprise, la vraie richesse d'une entreprise, c'est les humains qui y travaillent, c'est les compétences que ces humains ont, c'est la confiance qu'ils sont capables de générer entre eux et les clients, et la qualité de ces relations-là, et que ce capital immatériel, ben, il faut réinvestir dedans. Ça s'appelle la formation, par exemple. Ça s'appelle éventuellement la réputation d'une entreprise, d'une marque, etc. Et Dieu sait que les grandes entreprises savent investir des millions, voire des milliards dans certains cas, pour restaurer leur réputation s'il y a un petit problème. Combien coûte un changement de logo ou un changement de nom pour une banque ou une compagnie pétrolière qui a un scandale à faire oublier? Vous avez une idée des valeurs qu'on est capable d'investir dans du capital immatériel. Ben, le capital naturel, ça repose du même constat. C'est qu'en fait, il n'y a pas de richesse créée par les humains sans, à un moment donné, transformation de ressources qui viennent de la nature. Ces ressources, ça peut être de l'énergie, qu'on va fabriquer à partir d'énergie fossile, par exemple, mais aussi de l'eau, de l'orage hydroélectrique, mais aussi du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Mais ces ressources, ça va être aussi des denrées alimentaires, ça va être des fibres, ça va être du bois, ça va être des matériaux qu'on va retirer des écosystèmes. Et si on continue à faire comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on considère que la nature est un puits sans fond dans lequel on racle en permanence, hein, comme ça, c'est comme les rois fainéants là, qui puisaient dans les coffres, hein, pour dispenser quelques pièces d'or au peuple et acheter comme ça la tranquillité. Ben, quand on est un roi fainéant et qu'on oublie de remplir le coffre, à un moment donné, on commence à gratter le fond du coffre. Ben, c'est un peu ce qui est en train de nous arriver avec la nature. C'est qu'on a considéré que la nature était une richesse inépuisable. Et aujourd'hui, on arrive à la génération qui gratte le fond du coffre. Réinvestir dans le capital naturel, ça ne veut pas dire privatiser la nature, ça veut simplement dire qu'il faut qu'on arrête de considérer que cette nature est inépuisable et qu'il faut qu'on redonne une place, qu'on refasse une chance aux vivants et qu'on restaure, qu'on fasse une place partout, à la biodiversité, dans les villes, dans les campagnes, dans l'agriculture, qui aujourd'hui est très pauvre en biodiversité, et pourquoi pas dans les toits d'autres environnements. Donc je donnerai quelques exemples concrets. Alors tiens, je vais commencer tout de suite par une toute petite illustration. Ça, c'est un projet qu'on porte, un projet de ferme urbaine à l'Institut Inspire qui s'appelle La Marcotte. Ceux qui jardinent savent ce que c'est que du marcottage, je n'ai pas besoin d'expliquer. L'idée, c'est évidemment d'expliquer qu'on aura à terme des réseaux de fermes urbaines comme ça. Alors, c'est une ferme urbaine citoyenne. On considère, nous, que la priorité, ce n'est pas de produire des légumes. C'est anecdotique par rapport à ce qui va se passer dans les ceintures maraîchères, c'est anecdotique par rapport à ce qui va se passer dans les campagnes qui vont continuer à nourrir les villes pendant longtemps. Mais ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est d'où vient leur alimentation, comment c'est produit, quelles sont les conditions qui font que ça peut pousser. Et finalement, c'est des nouveaux contacts avec une forme de nature, en tout cas avec du vivant végétal. Et l'objectif, c'est de revégétaliser des espaces urbains denses, complètement bétonnés, dans lesquels les enfants grandissent complètement à l'écart de toute autre créature vivante que des humains, puis de temps en temps des chats, des chiens, quelques moustiques et quelques rats. Et ça, c'est un vrai sujet fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui grandissent dans les villes, les enfants qui grandissent dans les villes, grandissent loin de la nature. Et là, je pense que le travail que vous faites dans une association comme celle-ci de faire des sorties nature et des naturalistes de terrain, c'est essentiel, parce qu'on ne défend pas ce qu'on ne connaît pas. Et si on ne sait pas ce que c'est que la nature, on ne se mobilisera pas pour la défendre. Donc voilà, notre idée, c'était pas de mettre les villes à la campagne, mais de remettre un peu de campagne dans les villes, finalement, et de favoriser ce contact avec des gens qui ne sortent pas avec la nature. Donc à travers ce projet de ferme urbaine, au passage, c'était aussi un endroit et un moyen de valoriser localement des déchets compostables, fermentés cibles, qui peuvent venir des restaurants, des cafés, des hôtels, des épiciers quand ils ont des fruits pourris, etc., des cantines scolaires. Et là où on a installé par exemple la Gardanne, on récupère tous les jours 80 kg de déchets des cantines scolaires, et c'est composté, et ça sert à produire des légumes. Là, c'est un dessin, hein, mais évidemment, on a aussi un prototype qui tourne depuis le mois de mai l'année dernière. Alors, je vous disais qu'on va ensemble faire un petit voyage. Donc le voyage que je vous propose de faire ensemble avant d'atterrir en douceur dans la permaéconomie, ça va consister à revisiter un peu nos classiques finalement, ce concept de développement durable dont on parle depuis si longtemps. On en parle depuis tellement longtemps qu'on a un peu oublié ce que ça voulait dire. Et je pense que quand je dis « on », on n'est pas les seuls, peu de gens savent réellement ce qu'il y a derrière ce type de développement durable. Et en tout cas, s'il y a des bonnes idées, on ne sait pas aujourd'hui encore comment les mettre en œuvre et comment y aller. Donc ça, ça pose quand même un gros problème. Le deuxième, c'est alors de faire des constats factuels qui doivent nous emmener à prendre conscience que ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas une crise. C'est un changement de phase, comme disent les physiciens. C'est un changement d'état, un passage d'un état à un autre. Si c'était une crise, ben, il suffirait d'attendre que ça passe, et puis tout est réglé tout seul après. Ce n'est pas une crise, il va falloir se prendre par la main, il va falloir effectivement changer les règles du jeu. La troisième étape de notre voyage, c'est, je parlais du lien à la nature à l'instant, justement d'arrêter de considérer la nature comme une source de ressources physiques, tangibles, inépuisables, mais plutôt de considérer la nature comme un partenaire qui peut beaucoup nous apprendre et avec lequel on va vraiment pouvoir travailler autrement et en bonne intelligence. Je parlerai de l'économie circulaire, puisqu'on en parle aussi beaucoup en ce moment, à la fois d'ailleurs pour en donner les grands principes, mais aussi pour en donner un certain de limites selon moi, parce que l'économie circulaire n'est pas une fin en soi, ça doit être un moyen de faire des choses, si on devait la considérer comme une fin, on risquerait très probablement de s'écarter fortement du sujet. Et enfin, avant l'atterrissage, je dirais quelques mots voilà, de philosophie, d'éthique du vivant, de notre relation au reste du monde vivant, parce que ce sont des conditions qui font qu'on y arrivera, ou pas, et c'est quelque part aussi un nouveau mythe fondateur, un nouvel imaginaire partagé qu'on doit être capable de faire émerger tous ensemble et de partager, effectivement, pour réussir ce défi, pour réussir ce voyage. Alors ce voyage, on va le faire de manière métaphorique, en accéléré, en une heure, ce soir à peu près. Il est évident que c'est une longue transformation de nos sociétés. C'est une longue transformation dans laquelle on a bien des occasions de se décourager, parce qu'on n'a pas fini de se prendre des coups, on n'a pas fini de subir des échecs. Et en même temps, quand on regarde au-delà des gros titres des journaux, des quelques sujets qu'on va avoir aux 20h en général tous les jours, ou les titres du 7-9 le matin sur la radio, il y a vraiment de quoi être découragé. Mais en même temps, si on regarde au-delà, il y a des tas de petits signaux faibles, discrets, qui sont en train de se passer en ce moment. Et en fait, c'est ce qu'on écrivait là dès 2008, hein, quand j'ai créé l'Institut Inspire, la prochaine révolution industrielle a déjà commencé. En fait, quand vous êtes au cœur de la tempête, quand vous êtes au cœur d'une révolution, vous n'avez absolument pas conscience de ce qui se passe. Une révolution, ça s'écrit après, car ce sont les historiens qui disent, tiens, dans ces années-là, il s'est passé quelque chose d'important, il y a une vraie transition de la société. Et bien, peut-être que dans 50 ans, ou dans 100 ans, les historiens diront, ah, dans les années 2000 à 2030, il s'est passé des choses considérables. Le monde a considérablement changé. Mais simplement, pour les gens qui vivaient dans cette période-là, on n'avait pas conscience, on ne pouvait pas comprendre, puisqu'on était à l'intérieur, ce qui était en train de se passer. Projetez-vous il y a 150 ans. Demandez-vous si un ouvrier, ou un cadre moyen, ou un commerçant, à Londres, en 1850, il avait conscience d'être acteur de la première révolution industrielle. Évidemment que non. La première révolution industrielle a été écrite par les historiens un siècle après. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous. Alors, le développement durable, revisiter un petit peu ces classiques, la vision habituelle qu'on vous montre, c'est celle-là en général. Qui n'a jamais vu ce schéma ici ? Donc une grande majorité d'entre vous l'ont quand même déjà vu, parce qu'il est effectivement assez largement rebattu dans la littérature. Alors, deux choses. Toujours un compliment et puis une petite vacherie qui vient casser juste après. Le compliment, c'est que les gens qui ont fait ce schéma, les gens qui ont pondu les différents rapports à l'ONU dans lesquels on décrit le développement durable comme un mode de développement qui permet aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire le leur. Il y a des belles intentions politiques, il y a des beaux projets, il y a des mots bien choisis. Les interactions entre la sphère économique, la sphère écologique, qui disent qu'on a un monde qui est viable entre la sphère écologique et la sphère sociale, qui font qu'on a un monde qui est vivable. Vous avez eu beaucoup d'intervenants sur le thème de la santé, par exemple. Aujourd'hui, effectivement, la thématique santé-environnement est extrêmement problématique, parce que notre monde n'est plus vivable. Enfin, il est en train de devenir invivable. Quand on nous dit que l'écologie, c'est un problème de bobo, c'est juste oublier que dans un pays comme la France, c'est plusieurs dizaines de milliers de morts prématurées chaque année pour des problèmes environnementaux. Donc non, notre monde n'est pas vivable aujourd'hui. Et enfin, un monde dans lequel l'interaction entre la sphère sociale et la sphère économique est équitable, ben, c'est pas tout à fait ce qu'on vit aujourd'hui non plus, clairement. De plus en plus de richesses sont accaparées par une partie de plus en plus faible de la population mondiale. Donc, oui, on a quelque chose là qui est quelque chose qui est une belle utopie, qui est presque une lettre au Père Noël, une lettre de vœux, comme ça, on voudrait bien que le monde soit comme ça, mais à aucun moment, quand on voit ce schéma, on sait comment agir. On voit quelque chose qui se passe, mais on se dit, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ensuite, il y a une illusion extrêmement dangereuse, qui est simplement liée à la représentation graphique. Et vous savez tous que les langages non-verbaux, l'impact visuel des choses est beaucoup plus important que les mots. Et le sens qu'on voit là, c'est comme on a trois sphères légèrement séparées les unes des autres, on a l'impression que finalement, si on perd d'un côté, c'est pas trop grave, on va pouvoir regagner de l'autre. Et il y a eu de très longs débats avec des gens très sérieux qui, simplement, basés sur ce schéma-là, ont dit ben, finalement, si on dégrade le capital écologique, de nature, pour créer plus de richesses, ben, c'est la population qui va en profiter, tout le monde sera content. Et ben, on a juste oublié l'essentiel, c'est que nos systèmes, ils sont pas comme ça, mais ils sont comme ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un économiste français qui s'appelle René Passé, qui a pondu ça au début des années 80. Et en fait, quand on regarde la logique qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'effectivement, vous avez la biosphère, la sphère écologique, c'est quelque part le contenant de tout ça. C'est la limite de toute espèce vivante sur Terre, l'humain compris. Et donc l'humain là-dedans, c'est l'anthroposphère, c'est la sphère sociale qu'on retrouve là-dedans, elle se retrouve bien à l'intérieur de la biosphère. Donc vous voyez déjà que ces deux sphères, elles ne sont pas sur un même pied d'égalité. Vouloir faire le bonheur de l'humanité en oubliant tout simplement l'environnement, ben ça veut dire qu'à un moment donné, si l'environnement disparaît, si la biodiversité disparaît, comme elle disparaît aujourd'hui, d'ailleurs à un rythme extrêmement dangereux, préoccupant, ben ça veut dire que c'est l'humanité qui est entraînée dans cette chute-là. Le socle, le pilier du bien-être humain, c'est bien la biodiversité. Et enfin, je vous posais la question de manière un petit peu provocante tout à l'heure, de dire qui est au service de qui entre l'économie et la société. Ben, l'économie, c'est pas autre chose que la manière dont les humains se sont organisés pour produire des biens, pour produire des richesses, pour se rendre des services les uns entre les autres, et pour répartir les richesses qui auront pu être créées par ces activités-là. Donc l'économie est un moyen inventé par l'homme au service de l'homme. L'économie est un sous-ensemble du système humain, de l'anthroposphère. Donc on a bien trois systèmes imbriqués les uns dans les autres, et non pas les uns à côté des autres. Et enfin, parce que Là, j'ai parlé de système, sauf qu'en fait, en systémique, hein, tout le monde sait un petit peu ce que c'est qu'un système complexe. Hein, un système, en systémique, c'est un ensemble d'éléments en interaction entre eux. C'est-à-dire qu'on s'intéresse presque avant tout aux interactions, donc aux liens entre les entités, plus qu'aux entités elles-mêmes. C'est les relations qui comptent. Ben, si on n'a pas les liens, là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Par contre, si je mets les liens, là, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Ben, notamment, quelque chose qui est à l'extérieur de notre système, parce qu'un système fermé, ça fonctionne jamais très longtemps, où on a la chance d'avoir un soleil à quelques 20 minutes de distance à la vitesse de la lumière. Alors, faites le calcul, je ne sais plus combien ça fait, s'il y a des fois en maths, il y a le chiffre dans mon livre, mais je l'ai oublié. Heureusement que le soleil est loin d'ailleurs, hein, mais ça veut dire que la biosphère, elle a un moteur, et elle a un moteur externe. Et que ce rayonnement solaire permet finalement à la biosphère de fonctionner depuis des milliards d'années, grâce notamment à la photosynthèse des végétaux, donc qui transforme cette énergie primaire, très diffuse, en énergie concentrée, en biomasse finalement, à travers des sucres complexes que les végétaux ou les algues vont synthétiser. Au sein de cette biosphère, vous avez une anthroposphère, donc les humains, à nouveau, qui ont mis au point une économie pour se nourrir, pour s'habiller, pour se déplacer, pour se loger, etc. Et on voit bien qu'il y a des relations entre ces différentes entités-là. C'est-à-dire que nous, humains, à travers notre économie, nous consommons des ressources naturelles. Nous consommons de l'espace, nous consommons de l'eau, nous consommons de l'énergie, nous consommons des poissons, des arbres, des sols, puisqu'on use les sols à un rythme accéléré. Et puis, on a des impacts. On a des projets autoroutiers qui artificialisent, qui fragmentent, qui bétonnent les habitats. On a des barrages qui coupent des rivières, qui créent des discontinuités écologiques. On a des pollutions, plus ou moins diffuses, qui se répandent dans l'environnement. On émet des gaz à effet de serre. Donc tout ça, ce sont des externalités, ce sont des choses qu'on renvoie vers la nature. Et puis, entre les humains et l'économie, ben, il y a une relation qui devrait être une relation d'amour, sauf qu'elle est de plus en plus déséquilibrée. Donc, dans un sens, effectivement, on apporte des compétences, des savoir-faire, et on en retire une rémunération. Mais dans l'autre sens aussi, on a des externalités, c'est-à-dire que, ben, je l'ai dit, hein, l'économie, elle génère aussi du déchet immatériel, elle génère de l'exclusion. Elle génère de la perte de sens, elle génère de la dépression, du burn-out, des symptômes qui sont assez désagréables, et donc pas que des choses positives. Mais par rapport à la définition du développement durable tout à l'heure, vous savez, nos trois sphères, et puis notre vivable, notre viable, notre équitable. En fait, si on veut agir sur le système avec un schéma comme ça, là je commence à comprendre où je peux agir. J'agis pas sur les entités, je vais pas changer les hommes, j'agis pas sur la nature, ce serait prétentieux de vouloir changer la nature. Voilà, enfin, on a déjà un petit peu commencé à le faire, mais pas forcément dans le bon sens. Je vais évidemment pas agir sur le rayonnement solaire, mais c'est sur les relations que je vais pouvoir agir. Sur les liens, sur ces externalités, sur ces prélèvements, etc. Et donc là, on va pouvoir avoir un certain nombre de leviers qui vont nous emmener vers la permaéconomie. Alors j'y reviendrai. Un petit point de sémantique d'abord aussi. De quoi on parle en ce moment ? Mais quand je dis en ce moment, là, ce soir, mais même dans les médias, finalement, on vous parle beaucoup de ça. On vous parle de prospérité. Hein, on vous parle de, quelque part, de pouvoir d'achat. On vous parle d'une économie plus prospère. On vous parle de créer de la richesse, de la répartir éventuellement autrement. Mais on vous parle de croissance. On vous parle de développement, etc. Je préfère ce mot de prospérité. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il a une origine qu'on a largement oubliée, qui est lié à deux mots grecs que sont pro et spéro. Littéralement, ça se traduit comme la capacité à se projeter en avant. Prospérité, c'est pas, en tout cas, c'est pas seulement accumuler des biens, des richesses matérielles. La prospérité, c'est effectivement que ces biens et ces richesses qu'on accumule nous aident à voir plus loin et nous aident à nous projeter. Un grand économiste et anthropologue qui s'appelait Jacques Weber, qui est disparu il y a quelques années, et auquel mon livre est dédié, entre autres, avait coutume de dire que la pauvreté, c'est pas seulement une question de manque de moyens d'argent. La pauvreté, c'est l'incapacité à maîtriser son destin, l'incapacité de maîtriser son avenir. Et la misère, il disait que c'était l'incapacité de maîtriser son présent. Mais la prospérité, ça devrait être en théorie la capacité de retrouver une certaine confiance en l'avenir. Et il y a un lien indéfectible entre prospérité et confiance, mais qui est malheureusement quelque chose qu'on a complètement perdu. Et c'est un grand paradoxe de notre époque d'ailleurs, c'est que nous avons collectivement une humanité qui est plus riche qu'elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité. Après, on peut débattre effectivement de la manière dont ces richesses sont réparties. Mais collectivement, la richesse, elle est là. La vraie question, c'est qu'il y a un décalage. Nos sociétés sont riches, mais elles n'ont pas confiance en l'avenir. Et d'ailleurs, on n'a pas ensemble confiance en l'avenir, mais individuellement, on n'a plus confiance les uns dans les autres. Les consommateurs n'ont plus confiance dans les entreprises qui fabriquent les produits, d'où des crises et des scandales réguliers. Les électeurs n'ont plus confiance dans les élus. Les salariés n'ont plus confiance dans les patrons. Les patrons n'ont plus confiance dans les salariés, ils mettent des caméras de surveillance, des dispositifs de flicage un peu partout, etc. Ce qui manque vraiment dans notre société, c'est la confiance, et c'est cette question de la prospérité. Et ça doit nous amener à repenser aussi la finalité de tout ça. C'est que finalement, quand on parle de développement durable, c'est retrouver les conditions de la confiance, cette capacité à se projeter dans l'avenir pour bâtir une nouvelle prospérité partagée. Alors ces trois constats auxquels je voudrais vous emmener. Encore une fois, une transition de phase, c'est quoi ? Une transition de phase en physique, c'est quand par exemple de l'eau devient de la glace, ou quand de l'eau s'évapore et devient de la vapeur. Ça, c'est un changement de phase. Quand on est malade, on va voir le médecin, et puis on attend de guérir. Donc, ce qu'on peut appeler une crise, ça peut être soit quelque chose de temporaire, en attendant un retour à l'état normal, soit un changement de phase. Aujourd'hui, ce que nous vivons n'est pas une crise ordinaire. C'est une crise qui est un véritable changement de phase, et qui est liée à des changements profonds et structurels dans nos sociétés, dans notre économie. Le premier constat qu'on peut faire ensemble, si vous le partagez, si vous êtes d'accord, c'est celui de l'inversion des raretés. L'inversion des raretés, il repose sur le constat d'une différence fondamentale entre quelque chose qui était finalement les conditions de la première révolution industrielle en Angleterre, donc il y a 150 ans à peu près. Cette révolution s'est fondée sur une abondance de ressources physiques, tangibles, matérielles, qu'on extrayait de la nature, du sous-sol pour l'essentiel, du pétrole, du charbon, du gaz, des minerais, mais aussi de ressources qu'on cherchait dans les forêts, du bois, des sols qui étaient disponibles pour une agriculture de plus en plus intensive, ou du poisson qu'on allait chercher dans les mers. Mais en face de ça, on avait une population humaine qui était 7 fois moins nombreuse qu'aujourd'hui. Une population humaine qui était peu disponible pour le travail dans l'industrie, ou dans les services d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les rendements agricoles étaient relativement faibles, donc l'essentiel de la main-d'œuvre humaine en 1840, elle était dans les champs. On avait peu d'excédents alimentaires. C'était une population qui était bien moins formée qu'aujourd'hui, moins éduquée aussi. Donc les savoirs partagés, les compétences, la capacité de travail étaient moins disponibles qu'aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont dans cette salle qui n'iraient pas à l'école au-delà du primaire. Évidemment les femmes. L'accès des femmes à l'université, ça date à peu près de ces années-là, 1850, 1860, c'est tout récent. Comme quoi la moitié de la population était exclue du savoir. Et enfin, le dernier point, c'est que l'information, elle mettait son temps pour arriver. On n'avait pas encore le télégraphe, donc l'information, c'était par cheval qu'elle arrivait, voire par pigeon voyageur. Donc elle mettait un certain temps. Et quand il se passait un événement majeur en Chine, il pouvait se passer plusieurs mois avant qu'on ait un petit élément de cette nouvelle-là. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux de coopération font qu'on peut monter des groupes de projets transnationaux et coopérer à l'échelle mondiale et s'échanger de l'information à la vitesse de la lumière. Alors évidemment, on voit bien que les conditions ont changé. Aujourd'hui, en 2017, tout ce qui était abondant est en voie de raréfaction, toutes les ressources fossiles qu'on extrait du sous-sol, on est en voie d'épuisement. On a consommé à peu près la moitié du pétrole conventionnel qui était dans le sous-sol. On a consommé une grande partie des réserves de charbon, une grande partie des réserves de métaux. Donc on est en train d'épuiser ces ressources-là. Je ne parle même pas des poissons ou des forêts à travers la déforestation ou l'épuisement des ressources halieutiques, donc sous-sol. Mais à l'inverse, et il y a quand même une bonne nouvelle dans ce panneau-là, c'est que toutes les ressources immatérielles sont plus abondantes aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été dans l'histoire de l'humanité. La science qui était émergente en 1850 a accumulé des connaissances dans tous les domaines à un niveau sans précédent. Les humains, on l'a vu, sont bien mieux formés. Ils sont au passage 7 fois plus nombreux. Donc on a dans nos cerveaux cumulé une somme de connaissances, de compétences qui est sans précédent. Et enfin, on l'a vu avec Internet, on a la capacité de coopérer aujourd'hui à l'échelle mondiale. La vraie question, c'est quand vous regardez le logiciel, le moteur de l'économie, aujourd'hui encore, on cherche à faire, par la mécanisation, par l'automatisation, par des grandes séries, des gains de productivité sur le travail. C'est-à-dire qu'on cherche à faire des gains de productivité sur ce qui est abondant, et par contre on oublie de faire des gains de productivité sur ce qui est rare. En gros, les gains de productivité sur le travail, en 50 ans, entre 1850 et 1900 à peu près, l'homme il fallait 200 ouvriers pour fabriquer un certain linéaire de draps, il n'en fallait plus qu'un seul, avec des grosses machines, des gros métiers à tisser, pilotés par des roues à aubes, éventuellement. Donc avant même l'utilisation du charbon, on avait fait des gains de productivité sur le travail qui étaient considérables. On continue éventuellement aujourd'hui avec l'automatisation des services, etc. Mais par contre, ce qu'on oublie, c'est que les gains de productivité sur l'énergie ou sur les matières premières, on est toujours à la recherche de nouvelles technologies, évidemment, d'amélioration des rendements, des moteurs, mais c'est bien que l'amélioration des rendements va faire des gains incrémentaux. Là, ce sont des gains multiplicateurs qu'il nous faudrait. Comment augmenter aujourd'hui la productivité des matières premières par un facteur, non pas 4, on parle du facteur 4 parfois, non pas 10, mais un facteur 100, un facteur 1000, plus peut-être. C'est évidemment pas sur des solutions technologiques que ça va reposer, c'est sur des nouvelles solutions organisationnelles que ça va reposer, c'est sur des nouvelles manières de créer de la richesse, donc sur des nouveaux modes de développement, des nouveaux modèles économiques. Et là, c'est une innovation qui va être beaucoup plus radicale. Le deuxième constat, et il suffit de regarder autour de vous, vous allez le partager aussi, hein, c'est ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'il faut ? Tiens, je m'adresse aux plus jeunes. Qu'est-ce qu'il a fallu pour fabriquer un pont comme ça, par exemple ? Comme ça. Plein de choses. T'as une idée ? Et les murs de cette pièce, par exemple, ils sont faits en quoi ? Alors, il y a du bois, effectivement, il y a des panneaux de bois, mais c'est juste un plaquage. L'essentiel derrière, c'est du béton, comme on a là, effectivement. Ça a déjà entendu dans la salle. Il y a aussi fallu beaucoup de béton. Hein, on voit des câbles, il y a des haubans, il y a des piles, puis évidemment, il y a des treillis métalliques à l'intérieur des pièces de béton pour les rigidifier. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est essentiel. Il y en a fallu beaucoup. C'est quoi ?
L'ingénierie.
Alors, de l'ingénierie, oui. Mais ça, j'allais dire que le génie, le savoir-faire, le travail, c'est renouvelable. Mais par contre, il a fallu aussi de l'énergie, beaucoup d'énergie, pour fabriquer du béton, pour couler des métaux, pour les transporter, les amener sur place, etc. Il faut beaucoup d'énergie. On parle dans le bâtiment d'énergie grise. Au passage, d'ailleurs, ceux qui ont un smartphone dans votre poche, là, ça va, ça ne la déforme pas trop. Parce que vous savez que le poids écologique d'un smartphone, c'est à peu près 90 kg. 90 kg, c'est la quantité de minerais et d'énergie qu'il a fallu pour fabriquer le smartphone que vous avez en poche. Il pèse 90 grammes. Ça veut dire que 99% est ailleurs. Il est perdu dans le processus. Ben là, c'est pareil, il a fallu beaucoup d'énergie pour fabriquer le viaduc de Millau. Alors, d'où elle vient cette énergie ? Pour l'essentiel, elle vient des fossiles. Hein, c'est l'énergie qui date du Carbonifère, c'est il y a 380 millions d'années. Ce sont des grandes forêts géantes de fougères, de prêles, etc. Ce sont des micro-organismes, ce sont des marécages qui ont été enfouis, qui ont fermenté de manière partielle, pour donner le charbon, le gaz naturel et le pétrole qu'on utilise aujourd'hui. Le béton que vous voyez là, on l'extrait de roches calcaires qu'on va chercher dans des carrières. Ces roches calcaires, on en a partout sous nos pieds, autour de nous. Il faut savoir que c'est le fond d'anciens océans, du Jurassique et du Crétacé notamment, et ce sont des squelettes de micro-organismes marins qui sont lentement déposés au fond des océans et qui ont formé ces roches calcaires. Et puis les métaux, alors ça c'est un truc qu'on n'a pas trop cette notion-là aussi. En fait, il faut savoir qu'il y a 25 fois plus de diversité minérale sur Terre que sur les autres planètes du système solaire. Pourtant, toutes ces planètes se sont formées à partir des mêmes éléments. Au moment de la formation du système solaire, il y a près de 9 milliards d'années. La différence, c'est que sur Terre, la vie est apparue. Et avec la vie est apparue, la photosynthèse, et donc une atmosphère riche en oxygène. Qui dit oxygène dit oxydation, donc réaction chimique, précipitation des métaux, concentration sous forme minérale. Et en fait, ces métaux qui étaient dispersés se sont assemblés, se sont combinés, ont réagi les uns avec les autres, se sont précipités sous forme minérale, et ce sont ces réactions d'oxydoréduction qui font qu'on a cette diversité et cette richesse minérale sous les pieds aujourd'hui, en tout cas sous forme accessible. Donc ça veut dire qu'en fait notre prospérité, pour reprendre le mot de tout à l'heure, elle est quelque part un cadeau des écosystèmes du passé. C'est-à-dire que sans ces micro-organismes marins, sans ces forêts géantes du Carbonifère, sans tout ça, on n'aurait pas toutes ces ressources énergétiques et minérales en abondance aujourd'hui. La vraie question, c'est comme on les épuise, puisqu'on est désynchronisé, on consomme aujourd'hui ce qui a été fabriqué il y a des centaines, voire des milliards d'années, ben, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se resynchronise. Et par ailleurs, si on fait une règle de 3 très simple, on peut calculer, à la louche, hein, que chaque année, l'économie mondiale consomme ce que les écosystèmes du passé avaient mis 1 million d'années à produire. Alors ça tombe bien, le Carbonifère, c'était il y a 400 millions d'années, donc on peut se dire, ouais, il y a encore 300 ans de pétrole devant nous. Oui, sauf qu'à l'échelle des temps géologiques, 300 ans, ou même 1000 ans, ou même 10 000 ans, c'est rien, quand on raisonne en millions ou en centaines de millions d'années. Donc vous voyez bien qu'on est sur une grande désynchronisation, et qu'un des enjeux, ça va être d'arriver à resynchroniser notre économie avec la biosphère, avec la dynamique de la formation des ressources physiques qu'il y a sur la Terre. Et enfin, le dernier constat, alors c'est peut-être un petit peu le plus compliqué, je ne vais pas tout détailler là, c'est qu'en fait, aujourd'hui on vous parle de changement climatique, et encore, pas trop. On parle un peu de temps en temps, encore moins, de l'effondrement de la biodiversité. On parle encore moins de l'acidification des océans. On parle des pollutions par les aérosols, on parle de l'érosion des sols, on parle de la rupture du cycle de l'azote, du phosphore par exemple, de l'épuisement des ressources. Mais, et puis alors, on est toujours à se dire, mais ok, mais c'est quoi la priorité? Par quoi on commence? Comment on peut faire? Mais en fait, non, tous ces problèmes, ils sont en train d'arriver avec la même intensité aujourd'hui. Et si on cherche à raisonner, comme on le fait toujours d'ailleurs, hein, parce qu'on a été éduqué comme ça, un peu en silo, en séquence, en se disant on traite d'abord un problème, puis après un autre, etc., on n'y arrivera tout simplement pas. Le temps qu'on traite un problème, l'autre va s'aggraver. Et par ailleurs, c'est la notion de systémique, tous ces problèmes sont liés entre eux. L'effondrement de la biodiversité, par exemple, est lié au changement climatique de manière très forte. L'acidification des océans, qui est liée aux émissions de gaz à effet de serre, l'océan est un formidable puits de CO2. Le problème, c'est que quand on dissout du CO2 dans de l'eau, ça acidifie l'eau. Et comme la base de la chaîne alimentaire, elle se trouve largement dans les océans, et que cette acidification, elle menace le plancton, ben c'est la base de l'ensemble des chaînes alimentaires des écosystèmes qui est menacée aussi. Donc il faut agir de front sur tout ça, et agir vite. Et en plus, on a un défi qui est évident, c'est que si on veut le faire de manière acceptable pour les humains, pas attendre qu'il soit trop tard, il faut qu'on arrive à faire ça en offrant un travail, un emploi à tout le monde, un emploi qui ait du sens de préférence, et un emploi qui soit rémunéré. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une économie capable de créer des richesses. Donc on a ce vaste défi, et il va falloir l'aborder avec lucidité. Encore une fois, pas de manière séquentielle, mais le prendre à bras-le-corps de front. Alors comment on fait? C'est des quelques pistes qu'on va voir après. Et puis notamment, peut-être qu'on va commencer par changer de regard sur la biodiversité. La petite phrase qui est là, c'est Léonard de Vinci qui disait ça à ses élèves. Donc vous voyez que cette idée du biomimétisme n'est pas si récente que ça. Il disait à ses élèves, allez dans la nature, c'est là qu'est le futur. Alors changer de regard sur la biodiversité, et un des gros travaux qu'on a fait nous à l'Institut Inspire depuis le début finalement, c'est de dire aux entreprises, ok, vos activités elles ont un impact sur la biodiversité. C'est là-dessus que vous êtes jugé, c'est là-dessus que vous êtes taxé, c'est éventuellement là-dessus que vous êtes dénoncé le plus souvent. Alors c'est un constat qu'on fait, objectivement, effectivement. Le problème c'est quand vous pointez du doigt un acteur économique en lui disant « c'est pas bien ce que vous faites, ça détruit la biodiversité », on connaît tous le réflexe du déni, hein, de dire « mais oui, mais c'est pas moi, regardez l'autre, c'est bien pire, voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe ». Et puis du coup, on se trouve des excuses pour ne rien faire. Si à l'inverse, on lui explique à ce chef d'entreprise que son activité, elle dépend de la biodiversité, et que sans la biodiversité, il ne pourrait pas produire toutes les richesses qu'il produit, il n'aurait pas les matières premières qu'il utilise, il n'aurait pas les conditions d'exploitation qui sont favorables à son activité, bah effectivement, son activité risque de s'effondrer dans les quelques années qui viennent. Et là, il est du coup bien plus sensible. Là, il commence à se dire, ah oui, vous avez raison, c'est peut-être un enjeu stratégique, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de la biodiversité. Comme le dit souvent Hubert Reeves, hein, si vous ne vous occupez pas de la biodiversité, c'est la biodiversité qui s'occupera de vous. L'autre point fondamental, c'est qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, hein, sur la nature, sur les boules, les champignons, les algues, etc., ça fait des milliards d'années qu'elles se débrouillent très bien, qu'elles ont intégré quelque part le fait d'être dans un monde limité, dans lequel les ressources sont finies, dans lequel la source d'énergie est extérieure et elle est limitée à celle du soleil. Et tout ça, ça se passe plutôt pas mal. Ça fait 3,8 milliards d'années que la vie organise, structure la matière, créer de la richesse finalement potentielle à travers de la biomasse, hein, et créer des ressources. Et comme le dit Janine Bellius, qui est un peu la mère du biomimétisme, la grande théoricienne américaine du biomimétisme, la vie crée des conditions favorables à la vie. Et on est effectivement sur un processus auto-entretenu qui dure depuis des milliards d'années. On a l'air, nous, humains, du XXe siècle, du XXIe siècle maintenant, de découvrir ça d'une manière très candide, en disant là, mais c'est compliqué, comment on va faire? On est dans un monde fini, mais nous on a besoin de croissance, on a besoin de créer des richesses, on n'y arrivera jamais. Mais si, on y arrivera, il n'y a pas de raison. Ou alors on est vraiment très bête, on est plus bête que des moules, que des champignons, que des algues ou des fourmis. Non, c'est juste pas possible. Quelque chose d'autre qu'il faut qu'on apprenne aussi, c'est que nous vivons, et ça on a commencé à le comprendre depuis un petit moment grâce à Charles Darwin, nous vivons dans un monde en mouvement. La stabilité n'est pas la règle, elle est l'exception, mais elle est extrêmement momentanée. Ce mouvement, il est effectivement pas toujours à l'échelle humaine. Et parfois on a des grands changements évolutifs, des grands changements écologiques qui sont sur des durées qui sont largement supérieures à celles qu'on peut constater de nous pendant toute notre durée de vie. Cela dit, ces changements s'accélèrent du fait des activités humaines, justement. Denis Meadows disait récemment que la génération qui grandit, qui va commencer à travailler maintenant, elle verra plus de changements dans les 20 prochaines années que ses parents et grands-parents n'en ont vu dans les 200 dernières années. Donc ça veut dire que le changement s'accélère. Et quand je dis le changement, c'est dans tous les sens, ah pardon, c'est la diapo suivante, c'est vraiment dans tous les sens, c'est que l'évolution des organismes vivants, l'évolution biologique, elle s'accélérerait aussi du fait des pressions humaines. On a tendance à exercer une pression très forte sur les écosystèmes. Les bateaux qui reviennent des campagnes de pêche en mer du Japon reviennent aujourd'hui avec les filets remplis de méduses, avec des méduses géantes qu'on ne trouvait pas avant, des méduses qui font parfois 2 mètres de diamètre. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas. Mais ça, c'est une réponse de l'écosystème à la surpêche. L'écosystème s'adapte. Et pour lui, l'écosystème, ce n'est pas un problème. Il continue à faire tourner le carbone, l'azote, le phosphore, les nutriments, et à accumuler l'énergie solaire. Mais pour les humains, manger des poissons, c'était quand même mieux que de manger des méduses. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la réaction de l'écosystème n'est pas forcément dans le sens qu'on aurait pu nous souhaiter. Il va falloir qu'on apprenne à interagir autrement avec le vivant. Et alors oui, vous vous souvenez du petit flash sur l'inversion des raretés, le fait que les ressources matérielles deviennent rares, mais que les ressources immatérielles sont extrêmement abondantes. Mais il se trouve que dans la nature, c'est exactement comme ça aussi, depuis des milliards d'années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme toute l'énergie vient du soleil, et que le seul canal de transformation de cette énergie solaire diffuse en énergie concentrée, assimilable par des organismes vivants, c'est la photosynthèse, des algues et des plantes notamment, ben, il y a une sorte de goulot d'étranglement qui fait qu'à un moment donné, l'énergie elle est disponible en quantité très limitée, relativement rare, et avec un coût métabolique important, hein, ça c'est de la thermodynamique, chaque fois qu'un organisme vivant transforme de l'énergie, il y en a à peu près 70% qui est perdu sous forme de chaleur, sous forme de dissipation. Donc ça veut dire que la capacité des écosystèmes, donc des organismes vivants, à capter, transformer, stocker cette énergie, est très limitée. Et dans la nature, pour faire des matières premières, il faut de l'énergie. Donc énergie et matières premières sont rares, difficiles à acquérir, difficiles à conserver dans les écosystèmes. Et pourtant tout ce que vous voyez autour de nous, quand on se prend dans la nature, c'est la matière, c'est l'énergie. Et c'est l'énergie qui est structurée par de l'information. L'information est réellement prépondérante dans le système vivant. Alors, il y a des tas de manières dans lesquelles l'information circule. Il y a des signaux chimiques, il y a des signaux sonores, il y a de la communication entre les arbres, d'une forêt à travers le mycélium, etc. Mais il y a aussi de l'information que vous avez tous, vous, au cœur de vos cellules, dans l'ADN, qui est un peu le code source du monde vivant. Et nous partageons, nous, cet ADN, des bouts de cet ADN, avec n'importe quel autre organisme vivant dans la biosphère aujourd'hui, puisqu'on a un ancêtre commun avec tout. Et par exemple, nous avons en nous des gènes qui disent qu'on a une symétrie bilatérale, qu'on a un avant et un arrière, qu'on a un intérieur et un extérieur. Ça, ce sont des choses qui sont collées dans notre ADN, et ce sont des bouts d'ADN qu'on a hérités d'organismes qui ont vécu il y a des milliards d'années. Donc ça veut dire que l'information, elle se transforme, elle se cumule, elle s'enrichit de génération d'être vivant en génération d'être vivant. L'information est également prépondérante. A l'inverse, dans le monde technologique, ça fait 40 ans à peu près qu'on se gargarise d'être dans l'économie de la connaissance. Mais en fait, le monde actuel n'a jamais été aussi intense en énergie et en matière première qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a beau avoir l'illusion d'être dans l'économie de la connaissance, avec Google, Facebook, Microsoft, etc. En fait, c'est une économie qui est extrêmement intense en matière première et en énergie. Alors la réponse à l'inversion des raretés, elle est où d'après vous? Elle est là? Ou elle est là? Faites vos jeux. On a peut-être un très très bon modèle. Je vous le disais, on a beaucoup de choses à apprendre de la nature. Et peut-être que le plus important dans le biomimétisme, c'est pas ce qu'on voit souvent à la télévision, c'est pas les ailes recourbées des avions, c'est pas les surfaces hydrophobes inspirées du lotus, etc. La leçon essentielle du biomimétisme, elle est dans l'immatériel, elle est dans les modes d'organisation. C'est le point essentiel. Et j'y viens tout de suite d'ailleurs. Alors, c'est 3 niveaux du biomimétisme dont on parle. On a effectivement, on peut s'inspirer des formes du vivant, ou des matériaux du vivant. On peut s'inspirer, ce qui est déjà un petit peu plus intéressant, selon moi, des procédés du vivant. c'est-à-dire en gros de la chimie verte, c'est-à-dire de comment se passent les processus de fabrication, de transformation des matériaux ou de stockage dans le vivant. Je vous donne juste un exemple. Ceux qui font du vélo, du ski ou de la voile savent que c'est le Kevlar. Hein, le Kevlar, c'est un matériau de pointe qu'on utilise pour des matériaux de compétition. C'est très léger, c'est très rigide. Mais par contre, à fabriquer, c'est un processus qui est très énergivore, qui est très polluant, et c'est absolument impossible à recycler quand on arrive en fin de vie avec ces matériaux-là. Et puis pourtant, vous avez un petit organisme très modeste dans la nature, qu'on n'aime pas d'ailleurs en général, qui fait exactement la même chose. Mais qui le fait à température ambiante, qui le fait à partir d'une ressource abondante, sans absolument polluer, et qui le fait de manière à pouvoir le recycler entièrement quand on en a besoin. Ce petit organisme, quelqu'un a une idée ?
L'araignée.
La soie de l'araignée, c'est effectivement les mêmes propriétés mécaniques que le Kevlar. Mais c'est fabriqué dans des conditions qui n'ont rien à voir. Ça veut dire que dans bien des cas, des organismes vivants font aussi bien que ce que nous on fait, mais avec une économie de moyens qui est considérable. Et l'araignée, elle le fait depuis 400 millions d'années. Donc on a un petit peu de retard à rattraper. Et enfin, dernier point, je parlais d'immatériel, c'est qu'effectivement l'essentiel de ce que nous pouvons apprendre du vivant, c'est dans l'organisation des écosystèmes, c'est dans les manières dont l'information, dont l'énergie, dont les matériaux circulent dans les écosystèmes, c'est la manière dont les organismes coopèrent entre eux, c'est de ça que nous avons le plus à apprendre sans doute. Et aussi de la manière dont les systèmes et les organismes évoluent. Et enfin, tiens, puisqu'on parlait de crise tout à l'heure, est-ce que la vie a été un long fleuve tranquille depuis des milliards d'années ? Ben non, évidemment, on le sait aujourd'hui, hein, il y a eu 5 crises d'extinction majeures. La plus connue, c'est la dernière, donc sur la droite là, du panneau, l'extinction de la fin du Crétacé, c'est au moment où les dinosaures ont disparu de la Terre. Et on voit hein, sur ce schéma, c'est pas la crise d'extinction la plus importante. Alors, une des leçons du biomimétisme aussi, c'est notre capacité de nous adapter. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez d'ailleurs les courbes de l'économie, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu en dents de scie comme ça, il y a des longues périodes de croissance, genre 30 glorieuses, puis des chocs pétroliers, des grosses chutes comme ça. Ce qui est intéressant, et c'est vrai pour les organismes vivants et pour nous aussi, c'est que les compétences les plus utiles ne sont pas les mêmes selon les moments et selon les contextes. Quand vous êtes dans une période de croissance, de stabilité, d'abondance des ressources, les compétences qu'il faut avoir, c'est plutôt d'être compétitif, c'est plutôt d'être rapide, puissant, spécialisé très souvent aussi. Par contre, dans des situations de crise, de grosse incertitude, les compétences qu'il faut avoir, c'est plutôt de l'agilité. C'est plutôt d'être capable de se nourrir de ressources assez diversifiées. Si jamais une ressource vient à manquer, on va se reproduire sur une autre, etc. C'est plutôt une grande capacité à coopérer. Et c'est une grande capacité d'adaptation. Ben ça pose des vraies questions aujourd'hui, fondamentalement, sur la manière dont notre économie peut s'adapter, parce qu'on a fabriqué des gros dinosaures industriels qui sont aujourd'hui totalement incapables de s'adapter. Et par contre, l'agilité, elle est là, mais elle est peut-être juste pas là où, encore une fois, les médias éclairent le plus aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à apprendre, là aussi, sur la capacité d'évolution des organismes vivants. Et puis, alors, un dernier petit clin d'œil, j'ai parlé des dinosaures. Adaptation, on voit ce que c'est. En général, quoiqu'on se fait souvent une assez mauvaise idée de ce que c'est réellement l'adaptation. En tout cas, dans le langage politique, il y a une vraie dérive en ce moment, c'est qu'on vous parle souvent d'adaptation dans un sens très passif, dans un sens qui est presque un sens de renoncement, de résignation. On s'adapte parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ah oui, le changement climatique, il va falloir s'adapter parce qu'il est là, il est inéluctable. En fait, l'adaptation dans des systèmes vivants, c'est pas tout à fait ça. L'adaptation, c'est la diversité des espèces, des écosystèmes, des milieux, des patrimoines génétiques qui font que la vie peut s'adapter en permanence. Et c'est de cette diversité de solutions potentielles qui fait qu'à chaque fois, quelque chose de nouveau va pouvoir émerger, que de nouvelles pistes vont pouvoir sortir. Donc l'adaptation, c'est vraiment pas quelque chose qui est en forme d'entonnoir dans lequel il faudrait s'enfermer, c'est au contraire ouvrir le plus largement possible le champ des possibles de manière à être sûr que demain, on va pouvoir trouver des solutions essentielles. C'est un peu comme le disait Aldo Leopold, d'ailleurs, le secret d'un bon bricolage, c'est de garder toutes les pièces. Si vous démontez un réveil, mais que vous perdez un petit ressort au moment où vous le remontez, il marchera moins bien votre réveil, c'est sûr, peut-être même pas du tout. Et bien la biodiversité, c'est un peu pareil. Si on perd une espèce aujourd'hui, peut-être que c'est cette espèce-là qui aurait été indispensable à notre adaptation demain. Donc l'adaptation, c'est pas du tout la résignation, au contraire. Mais alors, l'exaptation, qu'est-ce que c'est ? Ben, l'exaptation, c'est un peu une mode secrète de la nature, de l'évolution, Et c'est finalement la manière dont des organismes vivants réutilisent des structures préexistantes, mais pour leur faire faire complètement autre chose dans un contexte qui aura radicalement changé. Un exemple qui est assez connu, et alors là, il ne se passe quasiment pas un mois en ce moment sans qu'on nous dise on a trouvé un fossile de dinosaure avec une partie de tissu mou, etc. Et puis ils avaient des plumes. Ben oui, ça fait 5-10 ans maintenant qu'on sait que la plupart des dinosaures avaient des plumes, ou quelque chose qui ressemblait à des plumes. Et puis certains oiseaux, hein, puisque tous les oiseaux descendent des dinosaures directement, hein, les oiseaux sont les survivants des dinosaures, et ben, chez les oiseaux, les plumes sont là toujours. Mais chez les dinosaures, elles étaient des isolants thermiques, pour la température corporelle, pour les oiseaux, elles sont devenues des aides à la locomotion, des aides au vol. Donc elles ont changé de fonction. Il y a un autre exemple, qui est un peu moins connu, mais qui est encore plus frappant, c'est la vessie natatoire des poissons. La vessie natatoire, c'est une petite poche dans le corps des poissons, juste en arrière de la tête, souvent, qui a un tout petit peu d'air dedans. C'est-à-dire que les jeunes alevins vont aller gober une petite bulle d'air qui vont garder toute leur vie. Et cette vessie se referme après. Et c'est cette petite poche d'air qui va être plus ou moins comprimée par la pression de l'eau. Et donc ça permet au poisson de comprendre, de détecter la pression de l'eau, donc savoir à quelle profondeur il est. Et donc il peut naviguer dans un milieu à 3 dimensions en fonction de la pression de l'eau. Ben, cette vessie natatoire, c'était chez certains poissons, ancêtres de tous les poissons modernes, un poumon primitif qui lui permettait de respirer l'oxygène de l'air en plus des branchies. Elle s'est transformée, il n'a pas besoin de branchies, il n'a pas besoin de poumons, il s'est contenté de ses branchies, ce poisson. Et du coup, effectivement, cette vessie est devenue un organe sensoriel. Donc vous voyez que la structure était là, mais elle a radicalement changé de fonction. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société qui doit évoluer vite. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit forcément tout réinventer? Est-ce qu'il n'y a pas des gisements d'exaptation dans notre économie, dans nos villes, dans nos infrastructures? Est-ce que parfois, quand on parle de mobilité, c'est plus intéressant et plus important de passer à la voiture électrique ou de changer l'usage de la voiture? Et de se dire qu'en remplissant mieux les voitures et en faisant mieux circuler les voitures qui roulent déjà, plutôt qu'en rajouter autant de nouvelles, etc., donc en changeant l'usage et pas la voiture, est-ce qu'on n'a pas plus de solutions pertinentes qu'en changeant la voiture? Bien sûr, à terme, il faudra changer la voiture, mais c'est d'abord réinventer l'usage. Une bonne partie de l'économie collaborative ou coopérative repose finalement sur des processus d'exaptation. C'est-à-dire qu'on a finalement des hackers qui vont regarder comment fonctionne l'économie et qui vont la détourner à leur manière et qui vont quelque part hacker le moteur de l'économie. Alors l'économie circulaire, je vous ai dit que j'en dirais quelques mots quand même. Quand on regarde, mais j'en ai déjà parlé, les cycles du vivant, donc j'ai parlé du moteur externe avec le soleil, des végétaux qui à travers la photosynthèse fabriquent la matière organique, et puis derrière vous n'avez... En fait, vous n'avez qu'un seul producteur, une famille de producteurs, c'est tous les végétaux, et tous les autres organismes, comme nous, sont des consommateurs. Qu'on soit herbivore, qu'on soit carnivore, qu'on soit omnivore, on est des consommateurs, on ne sait pas fabriquer de matière première à partir d'énergie solaire. Et puis, un bon moment, tout ce petit monde-là retourne à la nature, hein, sous forme de déjections, de déchets, de cadavres, de bois morts, etc., et donc est décomposé par des champignons, par des vers, par des insectes, par des bactéries. Et cette décomposition, elle a une finalité, c'est de reminéraliser tous les éléments nutritifs que contiennent les organismes, et donc de réinjecter ces atomes de carbone, de phosphore, d'azote, dans l'environnement, de manière à ce qu'ils puissent être réassimilés par d'autres organismes. Vous avez en vous des atomes de carbone qui ont appartenu avant à des dinosaures, à des poissons du Cambrien ou à des algues. La nature recycle en permanence depuis des milliards d'années. C'est matériaux. A l'inverse, notre économie à nous, elle est plutôt sous ce mode-là, c'est-à-dire qu'elle est plutôt sous un mode linéaire. On va d'un côté extraire dans des mines, ou dans des forêts, ou dans le sous-sol, dans les océans, des matières premières, et puis on les transforme, on les consomme, on les utilise, et puis à l'autre bout, on fabrique des déchets. Des choses qui... Déchets, c'est une notion juridique, hein. Les déchets, c'est des choses qui n'ont plus de valeur et qui doivent être détruites. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Alors que finalement, qu'est-ce qui nous empêche, avec nos grands cerveaux hypertrophiés, d'imaginer quelque chose qui tendrait vers ça, c'est-à-dire d'imaginer une économie qui produirait des richesses à partir d'énergie solaire et qui recyclerait l'ensemble de ces éléments nutritifs. Que ces éléments nutritifs soient effectivement du carbone, du calcium, du phosphore, du fer, etc., mais aussi bien sûr des métaux, mais aussi des plastiques, mais aussi du verre qu'on doit pouvoir recycler. Donc oui, la théorie c'est ça. Après, il y a un élément dont je n'ai pas parlé, c'est que la limite de l'économie circulaire, c'est l'énergie. en théorie, les matières premières, on peut les recycler à l'infini. En théorie, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, on a aussi beaucoup tendance à les disperser. Imaginez ce qui se passe quand vous freinez avec votre voiture, par exemple, il y a des métaux dans les plaquettes des freins. Ben, ces métaux, ils partent en poussière dans l'environnement, poussière infime. Ce sera impossible de recycler ces métaux-là, ils sont perdus, ils sont dispersés. Donc il y a des limites au recyclage parce que les usages dispersifs sont extrêmement nombreux. Mais en théorie, pourquoi pas? Mais par contre, l'énergie, on ne peut pas la recycler. Et comme cette énergie est disponible en quantité limitée, il va falloir faire attention avec l'économie circulaire d'économiser l'énergie. Pour faire ça, si je fais court, je prends un cycle de vie, en gros, simplifier ce qui se passe quand on fabrique un objet qu'on utilise, on va extraire des matières premières, on va fabriquer des composants, on va assembler ces composants dans des usines, dans des ateliers, on va les distribuer, et puis finalement les consommateurs finaux vont les utiliser avant peut-être de les jeter. Alors le recyclage, ce serait cette boucle-là. Ce serait la boucle qui consisterait à récupérer les matériaux en fin de vie dans nos objets pour refabriquer de nouveaux composants avec. Mais on peut aussi faire finalement quelque chose de plus court, puisque quand la boucle est longue, elle consomme beaucoup d'énergie, il faut transporter les objets, il faut fondre le verre, il faut fondre le plastique, il faut les trier, etc. Ça consomme beaucoup d'énergie et ça coûte très cher. On peut faire des boucles plus courtes. On peut dire, par exemple, on peut démonter nos objets, en tout cas les concevoir pour qu'ils soient facilement démontables, et réutiliser tous les composants de nos objets qui fonctionnent encore. Donc on va pouvoir faire du réassemblage. C'est quelque part du réemploi aussi. Hein. Alors le réemploi, c'est plutôt la boucle plus courte. C'est dire finalement, c'est pas des composants, c'est des objets entiers qu'on va réutiliser. Regardez déjà la grosse différence qu'il y a entre recycler du verre ou consigner des bouteilles. Consigner des bouteilles, vous réutilisez un objet qui a une valeur, qui a été fabriqué, qui a nécessité du travail, de l'énergie, vous le lavez juste un tout petit peu et vous le réutilisez directement. Recycler du verre, ça veut dire aller au point de collecte, casser le verre, le mettre dans un camion, le transporter à l'usine, le refondre, le retinter éventuellement, etc., recoller une étiquette dessus. Vous imaginez le nombre d'étapes et les consommations d'énergie qu'il va y avoir avec. Donc on peut faire de la réutilisation, ça marche très bien aussi. Et puis on peut faire, alors ce que j'appelle, c'est un grand mot nouveau, la servicialisation. C'est-à-dire se dire, mais finalement, est-ce que c'est réellement l'objet qui compte? Ou est-ce que c'est le service que l'objet rend à l'utilisateur? Et finalement, pour faire ça, est-ce qu'on a réellement besoin de l'objet? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où on peut se passer de l'objet? Est-ce qu'il n'y a pas des cas aussi où finalement on peut concevoir autrement nos objets pour qu'ils s'adaptent à ces nouveaux usages? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous avez un smartphone dans la poche, décidément c'est une fixation, vous commencez à le jeter quand la batterie fonctionne un peu moins bien. Et puis comme par hasard, vous ne trouvez pas de nouvelles batteries sur le marché. Et puis ils sont conçus de manière un peu monobloc. Si demain on se disait finalement ce qui compte, c'est pas l'objet, c'est l'usage, le service que rend cet objet, on va concevoir ces smartphones, ces objets, pour qu'ils soient faciles à démonter, faciles à faire évoluer, et de manière à ce qu'on puisse, quand on a envie d'améliorer un peu ses performances ou de les faire évoluer, de changer juste le composant qui nous intéresse, juste la carte mémoire, le processeur, l'appareil photo, la batterie. On a économisé 80% de l'énergie et de la matière qui était dans ce smartphone. Pour les voitures, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, une voiture, c'est extrêmement compliqué à faire évoluer en cours de vie. D'ailleurs, un modèle, il a des spécifications standards, il a tendance à garder les mêmes spécifications du début jusqu'à la fin. Si on voulait concevoir des voitures pour être mutualisées ou pour s'adapter à l'usage d'un consommateur en fonction de ses différentes phases de vie, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, je travaille, j'ai des week-ends, je veux voyager, etc., on aurait des véhicules complètement modulables. C'est pas complètement délirant, ça pourrait s'imaginer. Et Michelin avait même fait un prototype dans les années 80, un concept car, dans lequel tous les éléments essentiels, le moteur, la suspension, les freins et bien sûr le pneu, étaient dans les roues. En fait, on amenait la voiture au garage, on changeait les quatre roues, on en mettait d'autres. Pendant que vous repartez tout de suite comme ça, on reconditionnait les composants, les roues, et on pouvait les remonter sur un autre véhicule. Et on pouvait adapter les mêmes composants de base à une carrosserie qui du coup était beaucoup plus légère, puisqu'il y avait très peu d'éléments moteurs, d'éléments mécaniques dedans, quasiment pas de pièces à mouvement. Donc le matériel était extrêmement plus adaptable, plus agile, plus évolutif. Cette notion de servicialisation, elle est essentielle, et c'est vraiment ça qui marque la différence entre la révolution industrielle, où en gros, pour être performant sur l'économie, il fallait être capable de produire à gros volume et à très faible coût. D'où aujourd'hui les délocalisations vers des pays où la main-d'œuvre est pas chère, vers des pays où la réglementation environnementale est inexistante ou presque. Alors que la servicialisation, pour être performant dans une économie comme ça, il faut être capable d'apporter à chaque client un service individualisé, adapté à ses besoins. Et ça, ça suppose des nouvelles relations de proximité, ça suppose beaucoup plus de confiance, tiens, on retrouve la confiance, ça suppose beaucoup plus de connaissances, de travail, et ce sont des choses qu'on ne va pas délocaliser. Donc vous voyez, cette nouvelle économie, elle va reposer à travers cette notion de servicialisation, à travers ces notions de boucle courte en économie circulaire, beaucoup plus sur les compétences, le savoir-faire, les humains, que sur l'extraction de matières premières et des grands sites industriels. En gros, plus la boucle est courte, plus elle est vertueuse sur le plan écologique, et plus elle est performante sur le plan de l'économie. Donc vous voyez qu'on commence à aborder quelques pistes de solutions. Alors je vous ai aussi promis quelques éléments d'éthique. Alors là, on va une petite phase un peu théorique, mais vous allez voir, ça va bien se passer, ça ne va pas durer trop longtemps, sur finalement comment appréhender la réalité du monde dans sa globalité, dans sa dynamique, et quelle nouvelle posture éthique ça implique, tout ça. On a malheureusement tendance, et on a été formé comme ça, on a été un peu formaté comme ça à l'école aussi, à avoir ce réflexe qui est, face à un système un peu complexe, mentalement, on va le décomposer en éléments qu'on aura l'impression de mieux maîtriser, et on est dans l'illusion qu'en comprenant, qu'en connaissant les différents éléments d'un système, on va pouvoir comprendre le système. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont les interactions entre les éléments d'un système qu'il faut être capable de comprendre. Et ça, ça nous amène finalement à trois mots-clés qu'on va retrouver et qui structurent ce qui se passe d'ailleurs au cœur des étoiles, hein, à travers la nucléosynthèse, ce qui se passe au cœur des cellules vivantes, ce qui se passe au cœur des écosystèmes, mais aussi ce qui se passe dans les organisations humaines, politiques d'ailleurs, citoyennes, et aussi dans l'économie. Ça, ces trois éléments-là, c'est la thermodynamique. C'est une règle simple, c'est que tout ce qu'on fait transforme de l'énergie, et tout ce qu'on fait contribue à disperser de l'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie ne peut pas être recyclée. Quand on l'a utilisée une fois, elle se dégrade, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, et quand on a utilisé de l'énergie, elle est dispersée à jamais. On ne pourra pas la refabriquer. Heureusement qu'on en reçoit encore du soleil, et heureusement qu'on a les végétaux pour reconcentrer pour nous cette énergie. Donc, préservons cette biodiversité qui fait ce travail-là. Le deuxième élément, c'est la complexité. Et la complexité, c'est finalement, hein, j'ai insisté sur ce point-là, ce sont les relations entre les éléments qui sont plus importantes que les éléments eux-mêmes. Il y a un poète franco-chinois, François Cheng, qui a une très belle phrase que j'adore, qui est « Ce qui se passe entre les êtres vivants est au moins aussi important que les êtres eux-mêmes. » Mais ça, c'est vrai en écologie, c'est vrai en biologie, c'est vrai évidemment dans les relations humaines et amoureuses, c'est vrai dans les relations sociales. Et ce qui fait qu'à travers ces relations, il se passe quelque chose qui est formidable, qu'on appelle l'émergence. L'émergence, c'est ce principe qui veut que le tout est plus que la somme des parties. C'est le principe qui fait que vous êtes plus qu'une somme d'un amas de cellules, indifférenciées, informes, etc. Non, vous êtes un organisme multicellulaire qui s'est structuré, qui s'est organisé. C'est ce qui fait qu'un écosystème, c'est plus qu'une collection de timbres, d'espèces, de plantes, de végétaux, de champignons, etc. Non, c'est un ensemble d'interactions qui fait qu'un écosystème, il a sa dynamique propre et sa résilience, sa capacité d'évolution propre. C'est ce qui fait que dans un groupe humain, si ça fonctionne bien, on a une sorte d'intelligence collective qui va émerger. Parce que finalement, la compétence du groupe va être supérieure à la somme des compétences des individus qui constituent ce groupe. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. C'est une vraie leçon du vivant. C'est un niveau du biomimétisme qui est important. Ce principe de l'émergence, il doit être fondamental. On ne doit pas l'oublier. Et là, on a toujours tendance, dans le langage journalistique, à dire « Oh, la situation est complexe ». Alors ça, non. La situation, elle est compliquée. Mais elle n'est pas complexe. Quand c'est complexe, ça veut dire que c'est vivant. Qu'il va se passer des choses, ça va émerger, c'est foisonnant, etc. Pour moi, la complexité doit être une valeur positive. Par contre, quand c'est compliqué, c'est souvent qu'on a fait en sorte de rendre les choses compliquées, et là, on est enfermé dans des verrous, on ne sait plus comment en sortir. Pour vous donner un exemple de notre capacité à naviguer dans la complexité, juste une petite image. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Vous allez me dire, elle fait du vélo. Oui, mais elle navigue dans la complexité aussi. Elle est dans un monde complexe, et pourtant, tous les jours, ça se passe bien. Complexe, pourquoi? Parce que, déjà, les mathématiques de la cinétique, de l'équilibre à vélo, etc., c'est plusieurs volumes, c'est extrêmement épais. Ça fait un siècle à peu près qu'il y a des mathématiciens qui planchent là-dessus. Et tout récemment, on vient de reconnaître, il y a un rapport qui était assez amusant d'ailleurs, qui dit, mais finalement, on ne sait toujours pas pourquoi un vélo, ça tient en équilibre. On ne peut pas l'expliquer par des équations mathématiques. En tout cas, en l'état actuel des connaissances, on n'y arrive pas bien. Et ils ont même s'amusé à fabriquer des prototypes de vélos qui, d'après les modèles, d'après les équations, ne devaient pas rouler, ne devaient pas tenir, et pourtant ça a marché. Ça a marché parce que sur le vélo, il y a une personne qui interagit avec ce vélo et qui rétablit l'équilibre en permanence, etc., qui corrige. C'est complexe aussi de faire du vélo. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, il peut se passer des choses que vous n'allez pas pouvoir anticiper. Il va y avoir des travaux sur la route, vous allez faire un détour. Il va y avoir un camion qui va s'arrêter, vous allez doubler. Il va y avoir un autre cycliste, vous allez vous arrêter, éventuellement discuter avec eux. Il y a un piéton qui va traverser, qui n'a pas regardé. Vous allez freiner, vous allez adapter votre trajectoire, etc. Tout arrive, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe, et pourtant, ça se passe bien, c'est fluide, et généralement, on arrive à l'heure. Donc ça veut dire qu'individuellement, nous sommes aptes, inconsciemment, à naviguer dans la complexité. Ce qui est assez intéressant, c'est que nos sociétés l'ont perdu, et que collectivement, on ressent comme un besoin, d'ailleurs dans le discours politique, hein, les grands charlatans qui gagnent les élections, c'est souvent malheureusement comme ça qu'ils le font, c'est là, en tenant un discours simplificateur à l'extrême, réducteur, qu'on va gagner les élections. Non, il faut une véritable éducation à la complexité, faire comprendre que la complexité est une valeur positive, et que c'est d'ailleurs grâce à la complexité qu'on aura cette capacité d'adaptation, les fameuses pièces du réveil dont je parlais tout à l'heure. Un autre point aussi sur ce côté un peu maître et possesseur de la nature. Ça, c'est la dernière phrase de ce paragraphe-là. Ça vous parle, ça ? Le discours de la méthode, René Descartes, 1737, si je ne m'abuse. Non, 1637, pardon. Oui, voilà ça. Donc ça fait presque 400 ans que ce petit texte a été écrit. Le discours de la méthode, il est souvent considéré comme un des actes fondateurs de la modernité. C'est une étape importante, effectivement, dans le développement humain. Alors, il faut le remettre dans son contexte. Quand on est en 1637, on est en Europe au cœur du petit âge glaciaire, dans lequel les hommes souffrent de faim, de froid, la médecine est balbutiante, les rendements agricoles sont très mauvais. Et donc, effectivement, la priorité pour Descartes et ses contemporains, c'est de s'affranchir du hasard, de s'affranchir des caprices de nature, de mobiliser toutes les ressources de la raison, de la technique, des connaissances scientifiques, pour le bien-être humain, pour s'affranchir du hasard. Et donc, l'objectif, c'était effectivement de se rendre maître et possesseur de la nature. Mais presque 4 siècles après, il faut quand même qu'on se pose des questions, qu'on fasse un peu le bilan, qu'on fasse le devoir d'inventaire, comme disait l'autre. Est-ce que vraiment on a réussi ? Est-ce qu'on est devenu maître et possesseur de la nature ? Malgré une sorte de fuite en avant, hein, quasiment perpétuelle, chaque fois qu'on crée un problème avec une technologie, on invente une autre technologie pour corriger le problème qu'on vient de créer, et ainsi de suite. Et finalement, on se rend compte que, ben non, aujourd'hui, on n'est pas maître et possesseur de la nature. Quand on a fait de l'agriculture intensive, on a une perte de biodiversité, on a une érosion, un appauvrissement des sols, on a une pollution des nappes souterraines, on a des rémanents de pesticides, du DDT ou du chlordécone qu'on retrouve 40 ans après leur interdiction encore dans les chaînes alimentaires. On a un volcan islandais qui tend dans ses veilles et va perturber la moitié du commerce mondial et va faire atterrir des centaines d'avions. Donc on voit bien qu'on n'est pas maître et possesseur de la nature et que c'est une illusion. Peut-être une illusion souhaitable d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'en fait, cette nouvelle relation avec le vivant, elle ressemblerait plus à ça qu'au bulldozer qui va pousser un tas de terre devant lui. Hein ? Là, vous avez un surfeur qui ne maîtrise pas la vague. Il ne peut pas prévoir la direction, la vitesse, la puissance de la vague. Mais son agilité, il va la mettre au service de sa capacité à rester le plus longtemps possible à la surface de la vague. Et finalement, cette nouvelle éthique, cette nouvelle relation entre vivant humain et non-humain, donc de l'homme à la biodiversité, au reste de la biodiversité, ce serait finalement un peu la même approche que celle du surfeur. Ça veut dire mettre tout notre génie, notre intelligence, notre savoir-faire, nos connaissances scientifiques et nos techniques pour rester à la crête de l'évolution le plus longtemps possible, mais sans forcément essayer de vouloir tout maîtriser, tout domestiquer. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est très fondamental, c'est vraiment un nouvel âge des relations entre l'homme et la nature. Il y avait en gros ce qui se passait au paléolithique, hein, nous étions des chasseurs-cueilleurs, on subissait chaque jour des caprices de la nature, et puis après il y a eu ce qu'on appelle le néolithique, où on a inventé l'agriculture, et on s'est mis à vouloir domestiquer les plantes, les animaux, les écosystèmes, on a fait des rizières, on a fait des terrasses, on a canalisé les rivières, etc. On a voulu plus ou moins maîtriser le hasard. Et là, nous devons rentrer dans une sorte de post-néolithique, c'est-à-dire qu'on sort du rêve de maîtrise pour aller vers plutôt cette alliance, cette agilité face au vivant, qui doit me permettre de rentrer réellement dans une relation, sinon durable, il faut espérer que ce soit durable, mais en tout cas soutenable, avec le reste du vivant. Et enfin, il y a une autre leçon importante dans le vivant, c'est la notion de coopération. Comme le disait Jean-Marie Pelt, dans l'évolution, c'est souvent la coopération qui crée du neuf, mais c'est la compétition, la sélection naturelle, qui va trier les meilleures solutions. Je vais donner juste un simple exemple. Vous êtes constitué de ce qu'on appelle des cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes sont des cellules qui abritent en leur sein des organites spécialisés, un noyau, et puis des mitochondries pour gérer l'énergie. Les plantes, elles ont des chloroplastes, qui sont un peu pour la photosynthèse. Ces organites-là, que nous abritons au cœur de nos cellules, en fait, c'est une fusion, c'est une symbiose qui est apparue il y a peut-être 2 milliards d'années, à peu près. Et c'est cette nouvelle symbiose, donc cette coopération entre des cellules qui auparavant vivaient leur vie séparément, qui a permis l'apparition de la multicellularité et qui a permis finalement toute la diversification du vivant sous les formes qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une première étape, et très souvent dans l'évolution, c'est comme ça que ça se passe, les grands sauts évolutifs sont le fait de nouvelles symbioses et de coopération. Voilà un exemple qui est à retenir et à méditer aussi dans un système qui souvent met l'accent sur la compétition. Alors qu'en fait, pour aller vers la perméconomie, pour aller vers ces nouveaux modèles coopératifs en économie circulaire, etc., il va falloir apprendre à coopérer bien mieux. Et là aussi, c'est retrouver la capacité de nous faire confiance les uns envers les autres, et donc la capacité d'avoir une meilleure confiance en l'avenir. Et enfin, j'en arrive à ma conclusion. C'est finalement cette perma-économie, qu'est-ce que ce serait ? Alors quand j'écris le livre, hein, vous savez comment ça se passe, souvent on termine le livre et puis on se dit « mince, qu'est-ce que je vais mettre comme titre ?» J'avais bien une vague idée, mais c'était pas terrible. Et puis, finalement, c'était aussi le moment où, de plus en plus, on parlait de permaculture. Et où j'avais lu, d'ailleurs, pour préparer ce livre, plusieurs livres qui traitaient de permaculture. Et en lisant les livres des fondateurs, notamment David Holmgren, Bill Mollison, je me suis rendu compte que, en fait, ils ne parlaient pas d'agriculture. En tout cas, pas essentiellement d'agriculture. Ils parlaient du système de production humain. En gros, la permaculture, c'est une méthode, un cadre systémique pour la pensée qui permet de concevoir des systèmes de production durable, inspirés par le vivant. Et curieusement, en France, mais un peu partout dans le monde d'ailleurs, permaculture, on l'associe à l'agriculture. On l'associe à une certaine forme de ruralité. Et je me suis dit, mais finalement non, ces principes sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus ambitieux que ça, et finalement ce dont il faudrait parler, c'est de permaéconomie, c'est-à-dire d'appliquer ces principes systémiques pour la conception de systèmes de production humain durable, ça s'applique à l'ensemble du champ économique, à la conception des villes, à la conception de l'industrie, à la conception de l'agriculture évidemment, mais aussi à la conception des services à travers l'ensemble des concepts que j'ai évoqués. Et finalement, la permaculture, pour le dire aussi très simplement, ce serait une forme d'agriculture qui vise deux productions. Une production pour nous, les humains, qui exploitons les milieux agricoles, en produire des denrées alimentaires, des fibres, du bois, de la biomasse, etc. Mais aussi une production pour le sol, puisque finalement la permaculture permet d'entretenir, voire de régénérer la capacité biologique des sols, et donc leur capacité à fixer l'eau, les nutriments, le carbone, l'azote, le phosphore, etc. Et bien finalement la permaéconomie, ce serait une économie qui vise non pas une double, mais une triple production, une production bien sûr de biens, de services, de richesses pour l'humanité, une production qui vise à restaurer la société, le capital social cette fois-ci, c'est-à-dire notre capacité collective à avoir confiance en nous, à coopérer, à apprendre les uns des autres et à rester en bonne santé, dans des bonnes conditions de confiance, et une capacité de réinvestir dans le capital naturel, tiens, on retrouve le capital naturel, mais lui, cette économie, elle repose sur un socle vivant qu'elle ne maîtrise pas d'ailleurs, et qu'elle ne maîtrisera jamais, on vient de le voir. Mais il va falloir être capable de rendre à la biodiversité sa chance en réinvestissant, en restaurant les milieux quand ce sera nécessaire. Tout cela supposant aussi de resynchroniser les flux d'économie avec les flux de la biosphère, c'est-à-dire d'avoir des prélèvements qui soient minimisés, parce que cette économie se reposera beaucoup plus sur le savoir, sur l'intelligence, sur la coopération, que sur la consommation de ressources. Donc on aura moins de prélèvements et des savoir-faire qui vont consister à restaurer les milieux naturels, ou en tout cas, leur laisser la place et le temps d'agir et de se remettre en bonne situation. Il y a un principe qui est fondamental aussi en permaculture, On parle souvent de l'éthique du non-agir, hein, ça veut dire être capable de laisser faire des processus naturels, c'est une manière de réinvestissement dans le capital naturel. Alors mon petit mot de la fin, ce sera quelqu'un qui est du Sud, pour le coup, mais qui, comme moi, est du Sud, sur le du Sud, c'est Boris Cyrulnik, qui habite à La Ciotat, tout près de là où j'habite, et qui dit souvent, le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut être soi-même que sous l'influence des autres. Et ça, c'est vrai de tout adulte, de toute personne développée, c'est qu'on se construit, on se bâtit sur nos interrelations avec les autres, donc encore une fois, la systémique et les relations. Mais c'est vrai aussi de l'humanité. L'humanité ne peut être elle-même que parce qu'elle cohabite avec des myriades d'espèces vivantes, non humaines, avec lesquelles elle doit être capable aujourd'hui d'apprendre à mieux agir, mieux interagir en harmonie, et avec lesquelles elle doit être capable de comprendre la nécessité de cette altérité. Et là, nous avons, je fais un petit clin d'œil à un autre auteur qui est chez le même éditeur que moi d'ailleurs, qui s'appelle Baptiste Morisot, nous avons des ambassadeurs, comme ça, du monde vivant, qui viennent nous voir, qui nous titillent, qui nous embêtent parfois, comme le loup. Ben oui, le loup, il est revenu. Il est aux portes de Paris, dit-on, il ne va pas être loin d'ici. Il n'est pas forcément bienvenu partout où on est. Il représente cette altérité, cet autre. Et finalement, le loup est un ambassadeur du vivant. Il va falloir qu'on réapprenne à coexister avec le reste du vivant, sous ses manifestations les plus sympathiques, mais peut-être aussi sous d'autres manifestations qui nous sont moins spontanément sympathiques. Voilà, donc c'était mon mot de conclusion, mais je suis à votre disposition. J'imagine qu'il y aura peut-être quelques questions, réactions, ou envie d'apporter des compléments ou des témoignages aussi, qui sont bienvenus.